RCF.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Kevin Aubin, attaché régional Grand Est NQT, nous explique ce qu'est le mécénat de compétences et en quoi il peut être un levier d'épanouissement au travail. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Born sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Kevin Aubin.
Bonjour Amandine.
Merci de répondre présent et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de mécénat de compétences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors je m'appelle Kevin Aubin, je suis attaché régional Grand Est au sein de l'association NQT, donc je gère notamment les relations partenariales et le développement des adhésions pour l'association.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur NQT?
Bien sûr, alors NQT ça veut dire Nos Quartiers Ont Des Talents. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans cette année en Seine-Saint-Denis par deux chefs d'entreprise qui ont constaté qu'à niveau de diplôme égal, les jeunes de quartier n'avaient pas les mêmes chances d'accéder à un emploi que des jeunes venant d'un milieu social plus aisé. Ils ont donc créé cette association qui depuis a grandi. Donc cette année, l'antenne Grand Est fête ses 10 ans dans la région. Elle a été ouverte justement en Alsace, à Strasbourg. Donc aujourd'hui c'est 7 collaborateurs répartis sur toute la grande région Est. Et donc NQT, c'est une association d'égalité des chances qui permet à des jeunes diplômés Bac plus 3 minimum ayant moins de 31 ans de les aider dans leur recherche d'emploi, d'alternance et de stage par du mentorat professionnel.
On rentrera dans le détail sur le mentorat et sur également le mécénat de compétences. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous le bien-être au travail ?
Alors, le bien-être au travail, c'est un équilibre entre des relations humaines et un environnement qui soutient justement l'épanouissement professionnel et personnel. C'est un facteur fondamental qui contribue non seulement à la satisfaction des salariés, mais aussi à la performance et à la réussite de l'entreprise. Cela crée notamment chez les salariés un sentiment d'appartenance, une capacité à travailler ensemble et surtout l'impression d'être utile pour l'entreprise et de façon plus large pour la société.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et même nous expliquer ce qu'est le mécénat de compétences ?
Alors, le mécénat de compétences, en quoi ça consiste ? Donc, ça consiste pour une entreprise de mettre à disposition de ses salariés leur temps et leurs compétences professionnelles au profit d'une cause d'intérêt général ou d'une organisation à but non lucratif, par exemple, pour l'association NQT. Ce type de mécénat se distingue par le fait qu'il ne consiste pas seulement en un soutien financier ou matériel, mais bien à l'engagement des collaborateurs dans des actions de bénévolat fondées sur leurs compétences spécifiques. Et donc chez NQT, ce sont donc des mentors qui font une action de mécénat de compétences, mais dans l'absolu, cela va plus loin. Notamment, l'entreprise leur permet de dégager du temps pour réaliser une action autre qu'est le mentorat, en continuant à être payé par l'entreprise.
Donc si je devais résumer le mécénat de compétences, c'est du bénévolat pendant son temps de travail.
Oui, c'est exact. Et donc le collaborateur reste toujours salarié de l'entreprise, il est toujours payé par son entreprise et donc son temps va être dédié pour une structure telle qu'une association.
Alors j'entends bien les intérêts pour le collaborateur, mais qu'est-ce qui va motiver une entreprise à mettre en place du mécénat de compétences ?
Alors, les principales motivations, donc déjà c'est un projet qui fédère les collaborateurs et qui va au-delà des objectifs principaux de l'entreprise, notamment les objectifs financiers. C'est notamment la chance d'avoir des entreprises citoyennes et notamment les entreprises à mission qui rejoignent l'objectif prioritaire de consacrer donc un certain chiffre d'affaires et c'est surtout la motivation principale, c'est d'être utile, que les collaborateurs se sentent utiles et prennent aussi du recul par rapport à leur activité professionnelle.
J'entends sur les valeurs, mais alors concrètement, comment on concilie ça avec des emplois du temps qui sont chargés, où on entend tout le temps « j'ai pas le temps déjà pour faire mon travail », comment je dégage du temps pour faire du mécénat de compétences ?
Alors pour dégager du temps pour le mécénat de compétences, généralement ce sont donc les cadres ou dirigeants d'entreprise qui effectuent cette action. Donc généralement c'est fait sur leur temps de travail et l'entreprise leur permet justement d'avoir un temps dédié pour cette action de mécénat de compétences.
Et donc c'est effectivement aussi sur la base du volontariat, mais alors comment les gens arrivent à s'organiser entre leur charge de travail qu'ils ont et ce temps dégagé pour l'accompagnement ?
Alors généralement les collaborateurs donc qui sont cadres ou dirigeants d'entreprise sont sur des fonctions managériales donc ont l'habitude de gérer des équipes et d'être organisés donc pour concilier justement cette action de mécénat de compétences notamment le mentorat ils dédient un temps dans leur emploi du temps à cette action spécifiquement et en moyenne alors en tout cas pour NQT, c'est à peu près 2 heures par mois, ce temps consacré pour le mécénat de compétences. Donc généralement, c'est 2 heures qui vont soit être en début ou fin de journée, ou finalement même sur le temps de midi, puisque l'échange avec une personne dans le cadre du mécénat de compétences peut varier de 5-10 minutes à 1 heure en fonction du temps consacré à l'action.
Est-ce qu'il y a des limites justement à l'investissement dans le cadre du mécénat de compétences ?
En effet, il y a quand même des limites, je dirais. Les collaborateurs, c'est le temps qu'ils vont vouloir y consacrer justement à cette action. Donc la limite, finalement, c'est le temps qu'on va y consacrer. On sait que le temps est une denrée rare chez les collaborateurs dans une entreprise. C'est pour ça que c'est important que ce soit timé cette action et que derrière qu'il y ait un suivi avec à la fois l'entreprise et la structure qui accueille ce mécénat de compétences.
Donc il y a un engagement qui est pris de la part de l'entreprise. Ensuite, les collaborateurs s'investissent sur la base du volontariat et chacun décide du temps qu'il va pouvoir investir.
Exactement.
Il y a un cadre légal, fiscal spécifique qui encadre le mécénat de compétences ?
Alors oui, l'investissement donc collaborateur peut être mis dans le rapport financier de l'entreprise et notamment le bilan extra-comptable des entreprises de plus de 300 salariés. Paradoxalement, les entreprises ne le savent pas forcément et n'utilisent pas cette partie fiscale. Puisque la structure qui accueille les collaborateurs dans le cadre de ce mécénat de compétences sont à même de fournir justement le temps consacré à cette action, mais l'entreprise ne le valorise pas souvent ou n'y pense pas, et c'est pourquoi chez NQT la structure a créé ce qu'on appelle une monnaie sociale, le crédit d'impact social, pour monétiser ce temps collaborateur et valoriser cet engagement citoyen.
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui le sujet du mécénat de compétences et pour cela, je suis accompagnée de notre invité Kevin Aubin. Selon vous, Kevin, en quoi le mécénat de compétences peut-il être un facteur d'épanouissement professionnel ?
Alors, le mécénat de compétences peut être un facteur d'épanouissement professionnel puisque il va permettre aux collaborateurs qui s'engagent dans cette action déjà de développer de nouvelles compétences, de se sentir utile, bien évidemment, de prendre du recul aussi sur leur activité professionnelle parce que c'est vrai que parfois on a un peu le nez dans le guidon, on exerce le même métier depuis un certain temps, les mêmes tâches, etc. Donc là, ça permet vraiment de se poser et de de transmettre finalement son savoir-faire. Ça permet également de renforcer son relationnel aux autres et aussi un épanouissement et aussi de regagner peut-être en motivation puisque parfois on est sur un poste depuis un certain temps, on peut remettre en question aussi ses compétences et le fait, je prends l'exemple chez NQT, d'avoir en face de soi un jeune diplômé qui justement démarre dans la vie active, et lui il a tout à apprendre. Donc il y a aussi cette position de sachant pour le professionnel et d'élève, si je puis dire, chez le jeune diplômé qui lui justement va être avide d'avoir des conseils notamment. Et pour NQT en tout cas, on mesure le facteur d'épanouissement professionnel par le simple fait que les professionnels qui s'engagent en tant que mentors re-signent en moyenne 8 fois de suite pour accompagner nos jeunes diplômés. Donc, c'est qu'ils y trouvent bien évidemment une utilité, surtout du plaisir.
Et alors là, vous venez de citer quelques bénéfices. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices pour le collaborateur en termes de développement personnel et professionnel ?
Et déjà en termes de montée en compétences, c'est vrai que souvent dans les entreprises, on pense qu'il suffit de faire suivre des formations à ses collaborateurs en interne, alors que finalement le simple fait de mettre en place cette action RSE, de permettre de fédérer les collaborateurs au cours d'un projet commun, donc en l'occurrence le mentorat, ça va permettre déjà aux collaborateurs de se dire « Bon, je suis concerné, je me sens appliqué et surtout, je vais pouvoir acquérir de nouvelles compétences et connaissances en ayant finalement en face de moi un peu un miroir, mais de moi il y a une vingtaine d'années, et de me dire, bon, est-ce que déjà le marché de l'emploi aujourd'hui, il est le même qu'il y a 20 ans, et comment moi je le perçois aujourd'hui, et comment justement je vais pouvoir être aidant auprès donc d'un jeune diplômé qui recherche un emploi.
Donc en termes de bénéfices, on a le fait d'accompagner qui va permettre de pouvoir aider, de pouvoir partager ses compétences, mais également d'être au courant, au clair des nouveautés sur le marché du travail. Et j'entends aussi beaucoup dans ce que vous évoquez le développement de compétences. Quelles compétences en particulier peuvent être développées grâce au mécénat ?
Alors il y en a une qui revient régulièrement et dont justement les professionnels nous font remonter, c'est l'écoute active, puisque souvent, comme je l'ai dit précédemment, on est un peu dans sa sphère, dans son précaré, on voit pas toujours tout ce qui se passe, et le fait d'avoir en face de soi un futur professionnel à en devenir, ça permet justement de développer son écoute active afin de ne pas faire d'erreur. C'est surtout ça en fait, l'écoute active, c'est d'avoir donc un jeune diplômé en miroir et de se dire bon, moi c'est vrai que j'étais à sa place il y a quelques temps, j'ai commis des erreurs, je vais faire en sorte que la personne en face de moi ne commette pas les mêmes erreurs, justement en ayant ce transfert de savoir-faire et surtout d'être dans une posture de professionnel et finalement de gagner aussi en compétences managériales, puisque comme la majorité des collaborateurs sont sur des fonctions de manager, ça leur permet aussi de prendre du recul sur cette fonction-là qu'ils ont dans leur entreprise. Et dès lors qu'ils vont devoir fédérer leurs équipes ou accueillir peut-être de nouveaux collaborateurs dans leur équipe, le simple fait d'avoir échangé avec un jeune diplômé qu'ils ne connaissaient pas, quand ils vont accueillir une nouvelle personne dans leur équipe, ils vont un petit peu de par mimétisme reproduire l'accompagnement qu'ils ont pu avoir avec le jeune diplômé avec un nouvel arrivant.
L'écoute active, c'est bien, mais ça ne se décrète pas. Est-ce que vous avez mis en place des actions pour accompagner la montée en compétences et vérifier que ces compétences sont bien présentes chez les mentors ?
Alors oui, chez NQT, tout collaborateur qui s'engage dans l'action de mentorat fait l'objet donc d'un suivi et notamment d'une formation sur le mentorat, donc d'une heure. Donc on réunit les nouveaux mentors, donc qui sont issus de différents secteurs d'activité et de métiers. Et déjà, il va y avoir un apport entre chaque personne sur leur parcours, leur expérience, et on va leur permettre d'arriver à l'aise dans l'action de mentorat, de leur dire ce qu'est le mentorat, ce que ça n'est pas, et ensuite on va leur expliquer les modalités de suivi tout au long de leur accompagnement. Et on fait des points bien évidemment réguliers avec eux pour savoir un petit peu où ils en sont, comment ça se passe et comment eux aussi se sentent dans cette action.
Donc ils ne sont pas lâchés dans le grand bain, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement aussi de l'accompagnateur du mentor. Et est-ce que vous auriez des exemples concrets d'entreprises qui ont observé une amélioration du bien-être au travail grâce à cette démarche de mécénat de compétences?
Alors oui, on a une entreprise alsacienne, anciennement Alstom, qui est maintenant CAF sur le site de Reichshofen. Donc pour la petite histoire, on était donc partenaire avec Alstom, on avait à peu près une trentaine de collaborateurs engagés en tant que mentors. Quand il y a eu le rachat de ce site par la société CAF, ce sont les collaborateurs qui ont porté l'action de NQT auprès des repreneurs et pour eux, il était impensable de ne pas poursuivre cette action. Donc finalement, de par le sentiment d'appartenance à NQT des collaborateurs et les valeurs transmises, ils ont fait en sorte que CAF deviennent adhérentes à NQT et donc permettent aux collaborateurs de poursuivre leur engagement en tant que mentor.
Donc là, c'est carrément les collaborateurs qui ont été proactifs et demandeurs pour pouvoir poursuivre ce mécénat de compétences. Donc ça, c'est des retours que vous avez aussi de salariés qui ont bénéficié de cette expérience. Quel retour vous avez en général des salariés?
Alors le premier retour, c'est de se sentir utile. Et la joie d'avoir un jeune qui trouve ce qu'il recherche, puisque ils vont se prendre au jeu en fait, comme ils ont été dans cette situation il y a quelque temps. Ils ont commis des erreurs, ils ont peut-être eu la chance d'avoir eux-mêmes un mentor à l'époque, donc ils ont envie de rendre l'appareil. C'est surtout ça en fait. C'est vraiment de se dire aujourd'hui j'ai acquis suffisamment de compétences et de connaissances pour les transmettre à quelqu'un qui n'a peut-être pas eu les mêmes chances que moi à l'époque et de permettre à cette personne-là de s'épanouir professionnellement et surtout de rentrer dans la vie active et de lui permettre par la suite d'évoluer professionnellement.
S'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Kevin Aubin. Après avoir présenté ce qu'est le mécénat de compétences et ses apports tant pour le collaborateur que pour l'entreprise, nous allons parler maintenant de la mise en marche de la mise en place de la démarche, mise en marche également aussi, parce que on entend bien qu'il y a un investissement, mais il y a aussi un cadre. Alors justement, Kevin, quelles sont les premières étapes pour une entreprise souhaitant mettre en place du mécénat de compétences?
Alors déjà, c'est une action relativement simple à mettre en place et à
suivre.
C'est
rassurant.
Déjà.
Merci.
Donc comment ça se met en place? Donc chez NQT, donc on est une association, si une entreprise dans le cadre de sa politique RSE veut mettre en place cette action de mécénat de compétences et de RSE, elle va donc adhérer à NQT. Une fois que l'adhésion est faite, on va donc rencontrer les décideurs, généralement les RH, qui vont promouvoir l'action de mentorat auprès de leurs collaborateurs. Donc nous, généralement, l'équipe NQT intervient auprès de ses collaborateurs en leur expliquant en quoi consiste l'action de mentorat chez NQT et en quoi va consister leur rôle en tant que mentor auprès des jeunes diplômés. Une fois qu'on leur a présenté cela, sur la base du volontariat, toujours, les collaborateurs vont s'inscrire voilà sur un espace informatisé pour donc être mentor. Ils vont avoir accès à un espace personnel avec un certain nombre de livrables et donc participer à la formation de mentorat. Une fois que cette entrée en matière est faite, les collaborateurs vont se voir affecter un jeune diplômé. Le profil du jeune va bien évidemment être en cohérence avec le secteur d'activité et ou le métier du mentor et idéalement sa zone géographique pour que le mentorat puisse être en présentiel, donc le mentor rencontre son jeune, et sinon, bien évidemment, l'action peut se faire à distance. Et derrière, il y a un suivi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a donc un chargé de mission qui va suivre l'accompagnement chaque mois pour savoir un petit peu comment ça se passe, où ça en est, et aussi réfléchir ensemble. Parce que parfois, le mentor, il a besoin de prendre du recul, et c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'un professionnel de l'insertion chez NQT pour continuer l'accompagnement du jeune diplômé et la finalité. Et c'est la cerise sur le gâteau, c'est dès lors que le jeune trouve ce qu'il recherche, et dans ces cas-là, l'accompagnement prend fin et donc le mentor peut accompagner une nouvelle personne.
Ça semble simple comme bonjour, finalement, c'est déjà trouver la structure avec laquelle on veut faire le mécénat de compétences, adhérer et ensuite dérouler les étapes et se laisser guider par la structure. Ça semble simple. Mais quelles sont les difficultés qui peuvent survenir et comment les surmonter?
Alors, la difficulté principale, c'est qu'on est sur de la relation humaine. Donc on a d'un côté des professionnels bien installés, généralement nos mentors ont une vingtaine d'années d'expérience, et de l'autre on a des jeunes diplômés bac plus 3, moins 31 ans, issus de milieux modestes, qui sont novices finalement dans le marché de l'emploi, et qui parfois peuvent manquer de savoir-être, non pas les codes. Donc c'est là où ça va jouer, c'est d'avoir un dialogue permanent entre donc le mentor, le jeune diplômé et NQT. C'est vraiment une action tripartite où la communication est de mise. Et c'est vraiment là où tout se joue, c'est que dès lors qu'il y a la moindre problématique, on se pose, on en discute et on voit comment on peut régler les difficultés. Je vous rassure, bien évidemment, dans la majorité des cas, ça se passe bien, puisque on explique les règles du jeu à la fois aux mentors et aux jeunes. Dès lors qu'ils se rencontrent lors du premier rendez-vous, ils fixent les règles du jeu aussi et les bases de travail. Et dans 70% des cas, donc l'accompagnement se solde par une réussite.
Donc des difficultés finalement plutôt positionnées au niveau du savoir-être, mais le mentor n'est pas tout seul, il est accompagné par un chargé de mission. C'est bien, on peut mettre en place cette initiative, souvent il y a l'effet nouveauté, donc les mentors s'inscrivent, mais comment on fait pour que cette initiative soit durable, bénéfique et pérenne pour l'ensemble des parties prenantes?
Alors déjà il faut respecter les engagements réciproques, c'est-à-dire que on s'engage sur la base du volontariat. À tout moment, on peut faire une pause ou mettre fin à son engagement, mais dès lors qu'on est engagé, il faut s'engager complètement. J'entends par là que quand on est mentor, on se doit donc de donner bien au minimum 2 heures de son temps chaque mois pour un jeune diplômé, donc à peu près un rendez-vous par mois, et d'assurer un suivi avec donc le chargé de mission chez NQT. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est avoir toujours conscience qu'on est également dans un cadre professionnel, même si c'est une action associative. Mmh. On pourrait penser que on va donner un petit peu de son temps pour une association, donc ça va être assez léger entre guillemets, mais non, ça reste quand même cadré, normé, il y a des règles à respecter, et si tout cela est respecté, généralement l'accompagnement se passe bien.
En conclusion, parmi tout ce qu'on s'est dit, quels sont les points clés à retenir ?
Alors, les points clés à retenir. Donc déjà, le mécénat de compétences, c'est sympa pour toutes les parties. C'est enrichissant également pour les collaborateurs. Et c'est surtout un soutien incroyable pour les structures d'accueil, puisque les entreprises qui s'engagent dans cette action RSE, déjà ça va leur permettre de fédérer leurs collaborateurs au cours d'un projet sympa, et derrière de faire des rencontres enrichissantes avec des jeunes diplômés qui sont finalement peut-être de futurs collaborateurs de demain pour ces entreprises-là. Et derrière, au-delà du mentorat, il y a toute une communauté chez NQT, et c'est aussi un certain nombre d'actions et d'événements aussi qui sont organisés et qui vont donc permettre d'enrichir l'action et que toutes les parties prenantes donc se sentent impliquées et concernées.
Merci à notre invité Kevin Aubin pour vos apports éclairants sur le mécénat de compétences. Je retiendrai partager son savoir-faire, son savoir-être, développer des compétences, retrouver de la motivation, sortir du quotidien et partager, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Un grand merci à vous auditeurs pour votre écoute et si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet rcf.fr/Alsace. Grazie, grazie mille a Teo Gandoni pour la partie technique de ce jour. Et quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Polychrome pour s'épanouir au travail.